Transformer n'importe quel iPhone depuis le 10S en terminal de paiement, c'est possible depuis mardi en France grâce à Tap2Pay.
Ça transforme l'iPhone en terminal de paiement, comme on a l'habitude d'utiliser dans les magasins et aussi sur les marchés. Sauf que là, donc le commerçant peut recevoir des paiements depuis une carte bancaire sur un iPhone qui va être utilisé pour ça via une application.
Quelles conséquences pour nous consommateurs et pour les commerçants? C'est l'événement de la semaine. La vidéo spatiale sera-t-elle la première fonction qui tue sur le Vision Pro? La sortie du masque approche aux US, VisionOS en est à sa 6e bêta et avec elle sont arrivées plusieurs nouvelles vidéos qui montrent un peu plus l'interface et la mise en route du Vision Pro. On va en discuter.
Il faut voir la redondance de l'interface et de l'utilisation, un truc qui est super important et qu'on voit sur le Mac depuis le début avec à la fois la souris, les différents raccourcis clavier ou le menu sur le Finder pour ne parler que des débuts du Mac.
Le retour des news dans la semaine Apple avec le journal de la semaine. Au menu Windows bientôt dans votre iPhone. Une troisième année gratuite de SOS d'urgence par satellite sur iPhone 14. Et Amazon qui lâche Android pour son propre OS. Et puis le bonus exclusif Patreon. Cette semaine, le lancement des précommandes aux US et à $699 pour le badge intelligent à la Star Trek signé Humane, fondé par deux anciens d'Apple. Les uns annoncent la mort du smartphone, les autres prévoient un flop. Et entre nous, on a tous un avis différent. Ça promet, pour en profiter, patreon.com/iWeek. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'iWeek, la semaine Apple, l'événement cette semaine et en ce jeudi 16 novembre 2023, soir de notre enregistrement, c'est donc la disponibilité en France, depuis ce mardi, de Tap2Pay, autrement dit, la possibilité de transformer n'importe quel iPhone depuis le 10S en terminal de paiement. Pour en discuter et dérouler cet épisode, ils sont là tous les deux dans le studio virtuel d'iWeek, la semaine Apple. Salut Fabrice Neumann.
Salut mon capitaine, salut à toutes et tous.
Mentor en technologie, on te retrouve sur commentsamarche.net et toujours sur ton site.
Toujours sur pro-fusion-conseil.fr. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui m'a fait remarquer que je disais toujours mon site et donc j'ai répondu que c'est toi qui m'y forçais. Bonjour à tous.
Tu as la corde autour du cou, n'est-ce pas Gilles Dounès? Salut.
Salut Benjamin, salut Fabrice et bonjour tout le monde. Fabrice, donc conseil à profusion sur conseil-profusion.
Dans le désordre.
C'est ça. Voilà. Merci pour l'embrouille, Gilles Dounès, ancien rédacteur en chef de MacPlus.net et co-auteur d'iPod Backstage chez Duno. Alors, moi, Benjamin Vincent, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier sujet, donc, et Tap2Pay qui est devenu une réalité en France il y a 48 heures. Alors, est-ce qu'on peut d'abord expliquer ce que c'est que ce Tap2Pay? C'est plus une fonction pour les commerçants que pour les consommateurs que nous sommes au départ, n'est-ce pas Fabrice?
Oui, oui, bien sûr. C'est même tellement plus pour les commerçants que ce n'est que pour les commerçants d'abord. C'est pour qu'ils puissent recevoir des paiements. Donc ça transforme l'iPhone en terminal de paiement, comme on a l'habitude d'utiliser dans les magasins et aussi sur les marchés. Sauf que là, donc le commerçant peut recevoir des paiements depuis une carte bancaire sur un iPhone qui va être utilisé pour ça via une application. Donc, disons-le tout de suite, hein, c'est donc, ce n'est pas la même chose qu'Apple Pay qui nous permet, de nous, consommateurs, de payer. Faisons bien la différence. C'est vraiment là pour recevoir un paiement quand on est commerçant.
On dit, Gilles, que ça pourrait être une révolution pour les petits commerçants notamment. Pour quelle raison?
Pour la raison très simple qu'il n'y a pas besoin d'acheter ou de louer à prix d'or un terminal de paiement qui est mis à disposition par les grandes enseignes, en gros Mastercard, Visa, et puis je pense qu'il y a une compatibilité avec d'autres fournisseurs, mais ce sont les deux gros, et donc ça fait une souplesse pour les très petits commerçants, les
les indépendants.
Les indépendants, voilà, cherchez le mot. Et il y a une libération par rapport à ce type de boulet, d'autant que les commissions sont importantes pour chaque achat et elles vont être un peu différentes. Ni Visa ni Mastercard ne vont prélever leur dîme là-dessus. Ça va simplement se passer entre la banque et puis le commerçant.
Il y a évidemment un enjeu de coût qui est mis en avant, mais est-ce que véritablement, Fabrice, les commerçants ou les indépendants qui passeraient à Tap to Pay, ils trouveraient leur compte du point de vue économique? C'est peut-être plus simple, mais est-ce que c'est forcément moins cher?
Ça, je pense que l'avenir nous le dira. On sait déjà que, en gros, les commissions auxquelles faisait référence Gilles vont différer d'une banque à l'autre. Donc il va sûrement y avoir une petite valse des comptes bancaires professionnels pour les indépendants dont on parle, si, pour ceux qui sont en tout cas intéressés par ça.
Mais ils gardent leur compte bancaire professionnel?
Ils gardent leur compte bancaire professionnel à condition que leur banque soit compatible avec Tap to Pay. Toutes les banques de France ne le sont pas encore, c'est ça que je veux dire. Après, si par exemple ça devenait leur système de réception de paiement principal, peut-être qu'ils chercheraient une banque et qu'ils leur prendraient une commission plus petite. C'est ça que je veux dire. Je trouve que c'est une marche supplémentaire vers l'utilisation du smartphone. Alors l'iPhone en l'occurrence, mais de smartphone pour encore plus de choses au quotidien, non seulement pour payer mais aussi pour recevoir des paiements. Dans ce cas précis, Apple ne joue pas le rôle des banques, d'une banque, parce que Apple n'est toujours pas une banque, en tout cas pas en Europe et encore moins en France a fortiori, mais on voit bien que Apple avance un pas supplémentaire pour essayer de faire de l'intermédiation bancaire au moins, et pour faire rentrer non seulement, donc je répète, l'iPhone comme mode de paiement, mais aussi comme mode de réception de paiement. C'est ça, je trouve, qui peut changer la vie au quotidien. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître des terminaux de paiement qui ne provenaient pas des grandes banques ou des grands acteurs comme Gilles l'a souligné tout à l'heure. Il y a une boîte comme SumUp, par exemple. Vous avez peut-être déjà vu ça sur les marchés où justement c'est déjà des petits boîtiers qui sont finalement reliés à l'iPhone ou en tout cas au smartphone pour profiter de la connexion 3G, 4G, 5G pour valider les paiements par exemple, et puis envoyer un ticket de paiement par mail ou des choses comme ça. Et là, il n'y a même plus besoin de boîtier extérieur. Donc c'est ça, je trouve, qui est fascinant dans la démarche d'Apple. C'est plus on avance, plus toutes les fonctions sont réunies à l'intérieur même de l'iPhone.
Ouais, sans qu'il y ait besoin de matériel en plus. C'est l'un des
exactement. Intérêts. Ben oui, ouais. Oui, c'est et donc ça repose sur toute l'infrastructure que Apple met en place depuis des années, les puces NFC, la sécurité autour de tous ces éléments. Enfin voilà, c'est ça qui rend la chose vraiment intéressante.
Alors, il y a évidemment une question de confiance qui se pose dans ce genre de transition. Gilles, on est 7 ans après l'arrivée d'Apple Pay en France. Est-ce que c'est le bon moment pour faire ce lancement dans notre pays, selon toi?
Oui, je pense, parce que on est au moment où Apple déroule un pas supplémentaire pour se poser, vous l'avez dit, hein, en tant qu'intermédiaire de confiance. Et puis Fabrice l'a souligné, on est dans la démarche qui a été commencée avec l'iPod, mais avant avec la vidéo numérique. Là, on est dans la dématérialisation des contenus, des échanges, et Apple se place en tant qu'intermédiaire de confiance avec une solution qui est innovante, et d'autant plus que le parc installé est assez important maintenant en termes d'iPhone. On n'est peut-être pas au niveau de Samsung ou des autres en termes de renouvellement et de part de marché immédiate trimestre après trimestre, mais le parc installé, la base installée, elle augmente au fur et à mesure que les gens conservent leur iPhone ou les achètent d'occasion.
Alors sur e-génération, on trouve un article sur les frais pour les commerçants qui varient selon les banques et de manière assez importante. Alors il donne l'exemple de l'activation de Tap to Pay pour les clients pro, donc qui ont un compte auprès du groupe BPCE, donc c'est la Caisse d'Épargne et Banque Populaire. Donc le service nécessite un abonnement à 4,90€ par mois auprès de la banque, auquel s'ajoute un frais fixe de 15 centimes hors taxe par transaction. Et là-dessus, il faut aussi ajouter la commission de la carte bancaire, qui varie de 1,25 à 2,5%, et peut-être même un peu plus dans le cas d'American Express notamment. Et donc ils disent que pour un consommateur qui fait un achat de 30€, ça revient à 52 centimes de frais pour le commerçant. En tout cas, c'est ce que dit le groupe BPCE. 52 centimes pour 30€. C'est pas mal. Enfin, ça me semble raisonnable. C'est ça que je veux dire.
J'ai pas suffisamment de connaissances du monde bancaire, mais cela dit, ça veut dire que on voit souvent. Enfin, on le voit un peu moins. Je pense que c'est justement parce que certaines commissions ont été baissées, mais pendant longtemps, quand on voulait acheter quelque chose par carte bancaire, il y avait un minimum, c'était à partir de 10 ou 15 euros qu'on pouvait payer par carte bancaire. Maintenant, c'est souvent, le plus souvent quand même, à partir de n'importe quel montant, quand on prend un café quelque part, on peut payer avec une carte bancaire. Ça a quand même longtemps été un frein pour l'adoption justement du paiement par carte bancaire, et je pense beaucoup à l'exemple des marchés, hein, les indépendants sur le marché. Et il y en a certains qui n'ont toujours pas de terminal de paiement électronique pour recevoir le paiement par carte bancaire. Ça veut dire aussi parce que il faut gérer et il faut payer, quoi. Je pense que c'est pas rien malgré tout. C'est pas rien.
Alors apparemment le projet a été incertain pendant un moment en relation avec le droit bancaire européen et les normes européennes. On a beaucoup parlé déjà, nous ici, de l'arrivée du side loading sur l'iPhone au printemps prochain. L'ouverture de ce service, elle se fait aussi dans ce contexte. Gilles, l'intérêt pour Apple, c'est quoi ? C'est d'augmenter la présence de l'iPhone, parce qu'a priori, enfin, en tout cas, on n'est pas informé de l'intérêt direct pour Apple. Apple ne fait pas partie des intermédiaires qui touchent de l'argent là, dans l'addition des différentes commissions qu'on vient de lister. Donc c'est quoi l'intérêt d'Apple avec ce service ?
Ils sont présents avec un outil supplémentaire qui justifie l'achat d'un iPhone et de la présence dans l'écosystème Apple. On rentre dans la maison d'Ansel et Gretel, et puis on n'en finit pas de picorer ici et là. Et
les trois petits cochons.
Non, Ansel et Gretel, tu non, sais.
Je sais, je plaisante.
Là, les trois petits cochons, la maison, malheureusement, elle a eu parfois des soucis, mais c'est un pas de plus, d'autant que la carte bancaire est pas mal utilisée en France, même si, avec la crise, les gens reviennent beaucoup aux espèces parce qu'ils savent exactement combien ils ont à dépenser. Et ils ont donc ils partent avec un budget, ils ne vont pas au-delà de ce budget. Ça serait peut-être un peu différent en Allemagne, où les espèces sont beaucoup plus utilisées qu'ici. C'est peut-être pour ça que Apple a, je ne veux pas dire de bêtises, a commencé avec la France sur le territoire européen.
Alors, je parlais de la confiance et de la question de confiance tout à l'heure. Dans son communiqué, Apple rappelle qu'avec Tap to Pay sur iPhone, les données de paiement des clients sont protégées par la même technologie que celle qui assure la confidentialité et la sécurité d'Apple Pay. Ça veut dire, Fabrice, concrètement, que dans les jours, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, on va de plus en plus souvent payer en approchant son iPhone d'un autre iPhone ou son Apple Watch.
Ou sa carte bancaire, donc, puisqu'on oui. pourra aussi payer avec sa carte bancaire si sur celle-ci, la puce NFC est activée. Faut rappeler ça, il y en a certains qui n'activent pas la puce NFC de leur carte bancaire de peur d'être piraté ou que quelqu'un avec justement un terminal de paiement un peu trop près d'une poche dans le métro puisse prendre des sous. Mais absolument. Et c'est pour ça que ce qu'a dit Gilles prend tout son sens. Je pense qu'on est dans la stratégie d'Apple pure et dure depuis des années, c'est-à-dire offrir un service qui donne envie, qui motive d'acheter du matériel Apple, parce que même si dans les résultats financiers d'Apple, les services ont beaucoup augmenté, le business d'Apple, c'est d'abord encore et toujours de vendre du matos et donc des iPhones. Et voilà, donc on peut payer avec son iPhone et on peut recevoir des paiements avec son iPhone, surtout rester chez nous, tout va bien, quoi. Je pense que c'est l'intérêt bien compris, ouais.
Et on l'a vu lors de l'annonce des derniers résultats trimestriels, la France faisait partie de ces pays où Apple a de nouveau battu des records. Donc vendre un petit peu plus d'iPhone en plus grâce à Tap2Pay, ça fera pas de mal. Voilà donc pour cet événement de la semaine. Notre événement à nous cette semaine, ben vous le savez, hein, c'est le lancement d'iWeek Express, notre nouveau podcast en mode breaking news. Alors vous le savez, il succède à la quotidienne iWeek. iWeek Express, c'est le tout premier podcast indépendant d'information sur l'écosystème Apple, à la parution imprévisible, et oui parce qu'elle est déclenchée par l'actualité. En fait, dès qu'une information de dernière minute d'importance nous parvient, on enregistre et on diffuse un nouveau numéro d'iWeek Express avec deux priorités, du recul même à chaud et la plus grande réactivité possible. Alors c'est vrai, la nature même d'iWeek Express, son caractère imprévisible, rend l'abonnement du coup encore plus important. Alors si vous étiez déjà abonné à la quotidienne iWeek, vous n'avez rien à faire. Et vous avez d'ailleurs dû recevoir le premier épisode d'iWeek Express, c'était mercredi matin. Pour les autres, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le sur toutes les grandes plateformes de podcast et c'est toujours gratuit. On passe à l'info de la semaine à présent. L'info de la semaine, elle est directement liée à la sortie de la bêta 6 de Vision OS, le futur système d'exploitation du Vision Pro, le masque de réalité mixte d'Apple qui doit sortir aux US en début d'année prochaine. Cette bêta 6, elle est arrivée pour les développeurs dans la nuit de mardi à mercredi. Et avec elle, on a découvert de nouvelles vidéos qui donnent une idée encore plus précise du fonctionnement du masque, notamment du paramétrage de cette fameuse fonction EyeSight, vous savez, qui reproduit le haut de votre visage pour ceux qui s'approchent de vous, et de ce qui se passe à l'intérieur. Et on en vient à se poser cette question, et si la vidéo spatiale en 3D constituait la première killer feature, comme on dit, du Vision Pro ? Alors on va y revenir dans un deuxième temps, mais d'abord, mes amis, les vidéos d'intro et de présentation, bah, j'imagine que vous les avez découvertes comme moi. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez ressenti en les regardant, Fabrice ?
On s'approche de la sortie parce que du coup, on voit bien que ces vidéos de présentation commencent à être prêtes en fait. C'est-à-dire que là, quand on commence à parler en détail de l'accueil du nouvel utilisateur, les étapes par lesquelles il faut passer pour ensuite pouvoir utiliser son nouveau matériel, c'est qu'on est presque prêt. En gros, c'est ce qui se passe quand on installe un iPhone ou un Mac. Il faut passer quelques étapes. Alors, on n'a pas tout vu, hein. J'imagine qu'il faut justement aussi se connecter à son compte Apple. Alors, peut-être que ce sera comme avec un boîtier Apple TV ou il suffira d'approcher son iPhone pour passer toutes les informations de son compte à son masque et ensuite ce sera fait. Ce qu'on a vu notamment, alors tu disais le paramétrage de la fonction EyeSight, c'est aussi en fait le paramétrage totalement de la persona, je ne sais pas si c'est le même mot en français et en anglais.
Le persona, ouais.
La persona, en fait, c'est ce qu'on a vu au moment de l'annonce de la WWDC, c'est lorsqu'on fait un FaceTime avec son masque sur le visage, forcément, l'interlocuteur ne peut pas voir notre visage, donc il y a une reproduction en 3D du visage, de notre visage. Il faut donc le programmer d'abord, et donc pour faire ça, il faut tenir le masque, donc on l'enlève de sa tête, on le tient devant soi avec le masque tourné vers soi, les caméras extérieures tournées vers soi, et puis le masque nous dit, alors il faut regarder, tourner la tête à gauche, puis à droite, ensuite à relever les sourcils, faire un sourire sans montrer les dents, faire un sourire en montrant les dents, et puis peut-être un autre mouvement encore, et ça suffit a priori pour que le masque puisse recréer un personnage 3D, ou en tout cas un visage en 3D qui sera celui montré quand on fera un FaceTime avec le masque sur le visage. C'est plutôt rigolo à voir. Dans la démo, ça se passe très bien, évidemment. Je suis curieux de voir comment ça se passe en vrai.
C'est vrai que la jeune femme qui fait la démo a l'air de savoir exactement ce qu'elle doit faire.
Elle est très calme. On voit bien qu'elle a l'habitude de mettre le masque bien en face du visage, etc.
Mais en fait, ça m'a tout de suite rappelé la procédure de paramétrage de Face ID sur iPhone. Gilles, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est à ça que je pensais aussi. Je ne sais pas pour toi, mais moi, le paramétrage de Face ID n'a pas été de tout repos. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois. Il y avait des choses qui ne prenaient pas. Alors, ça a dépendu des modèles, mais ce n'est pas toujours aussi évident qu'Apple peut le communiquer.
Oui. Alors, autre vidéo qu'on découvre depuis la sortie de cette bêta 6 de Vision OS, il y a tout ce qui concerne les gestes qui vont servir à piloter l'interface. Donc toujours avec cette jeune femme dans son canapé, Fabrice.
Oui.
Alors on avait vu ce geste qui consiste à pincer le pouce et l'index. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a retrouvé plus récemment avec WatchOS. Sur les nouvelles Apple Watch. Mais il y en a d'autres qu'on n'avait pas vu dans la keynote. Est-ce que tu les as repérés?
Et alors, tu me lances là-dessus. Et non, je ne les ai pas repérés. Alors, raconte-nous.
Alors, tu te souviens à quoi sert le mouvement du pouce et de l'index?
Voilà, c'est pour faire un clic. Et voilà, on avait vu aussi, on laisse les doigts ensemble et on lève un peu la main pour faire un scroll.
Voilà.
Faire défiler une page.
Ouais, comme si on voulait pousser l'écran devant nous vers le haut, quoi.
Ouais.
Mais tout ça est assez subtil.
En revanche, il y a des vidéos qui montrent justement du contenu en 3D. C'est là qu'on voit aussi qu'Apple est quasiment prête parce que il y a des démonstrations où là, on n'est plus dans un cadre où on fait des mouvements. On est dans un environnement qui montre une vidéo qu'on regarde. On peut tourner la tête, etc. C'est lié aussi aux vidéos qu'on peut commencer à prendre dans la bêta d'iOS 17.2 quand on a un iPhone 15 Pro, me semble-t-il. On peut commencer déjà à filmer en 3D, donc en vidéo spatialisée, comme Apple l'appelle, et que ce sera justement reproductible on filme comme ça pour voir ces vidéos dans le Vision Pro. Et donc là, il y a des démonstrations avec des vidéos d'encore meilleure qualité pour être complètement englobé dans un paysage, quelque chose. Donc ça fait partie des choses qui sont... voilà, on pourra mettre son Vision Pro pour oublier le monde qui nous entoure.
Gilles, en fait, je pensais que tu allais me parler de cette vidéo dans laquelle, on paramètre à la fois ses mains dans l'interface et aussi la validation des corrections oculaires qu'on a choisies. Et ça passe par une étape où, en fait, il y a un logo rond avec une sorte de QR code, mais à la Apple, qui apparaît au centre de l'écran. Et le message dit qu'il faut, en fait, regarder le code qui doit être sans doute imprimé sur l'étui des lentilles. Un peu comme quand on met l'iPhone au-dessus de l'Apple Watch avec le nuage de points là qui tourne au tout début. Là, il faut regarder avec le masque l'équivalent du QR code qui est imprimé sur le paquet des lentilles, en fait, des lentilles de correction oculaire. Et c'est ça qui va les activer ou adapter le masque à leur utilisation.
Avec les caméras extérieures du masque, en fait. qui vont récupérer ce QR code et le mettre
dans le
système.
Moi, c'était pas ce qu'il y avait de plus clair, en fait, justement, dans cette démarche-là. Parce qu'à un moment, dans cette vidéo, on voit aussi que le système demande à regarder les deux mains et puis à les retourner pour montrer la paume et puis ensuite le dessus des mains. Ça, je pense qu'il va falloir qu'on ait d'autres vidéos pour ça.
Effectivement, il y a cette étape où on doit mettre ses deux mains devant soi, un peu avec les bras à l'horizontale, et retourner les mains pour que le masque voit les deux côtés des mains. Effectivement, ça, c'est dans la vidéo que je suis en train de re-regarder. Et ça se termine par une coche dans un cercle qui dit « voilà, le paramétrage des mains est terminé ». Ensuite, il y a un ajustement de la luminosité, je pense aussi à l'environnement extérieur. Et puis là, apparaissent plusieurs points au centre de l'écran à tour de rôle. Et il faut cliquer dessus, d'abord avec un doigt, puis regarder les différents points qui apparaissent en cercle. Il y en a 6, là, du coup, avec ses yeux. On regarde avec les yeux en général. Ben, voilà, c'est des étapes qui nous apparaissent pour l'instant de manière un peu désordonnée, mais on commence à avoir un avant-goût de ce à quoi va ressembler l'unboxing du Vision Pro et sa mise en route finalement. Et ça, on peut pas dire autre chose que ça donne quand même envie. Hein.
Ouais, mais ce qui va être intéressant de voir, c'est comment Apple s'est débrouillé pour ces différentes étapes et ces différents gestes de l'interface pour toutes les sortes de handicaps à la fois sensoriels et physiques sur lesquels Apple, les dirigeants d'Apple ont beaucoup insisté qu'ils avaient pensé aussi. Et donc comment on va faire avec une personne qui a une déficience visuelle, quel que soit son niveau, quelqu'un avec un handicap physique, au niveau du son, c'est moins. Au niveau de l'audition, c'est moins important, puisqu'on va pouvoir afficher tout un tas de trucs à l'écran. Mais il faut voir la redondance de l'interface et de l'utilisation, un truc qui est super important et qu'on voit sur le Mac depuis le début, avec à la fois la souris, les différents raccourcis clavier ou le menu sur le Finder, pour ne parler que des débuts du Mac.
Ouais. Alors, à propos de ces vidéos spatiales en 3D dont tu parles, Fabrice, on va peut-être être étonné par le succès qu'elles vont avoir, parce que depuis la bêta 2 d'iOS 17.2, les iPhone 15 Pro et Pro Max sont capables de réaliser, de filmer des vidéos spatiales, hein, comme le Vision Pro sera capable de le faire lui-même directement en appuyant sur le bouton qui est sur le masque. Et j'ai notamment vu le test d'un journaliste de CNET aux US qui s'appelle Scott Stein, et il explique qu'il vient de tourner, en fait, dans un restaurant japonais, des images donc spatiales ou spatialisées, je sais pas comment on va dire, avec son iPhone 15 Pro et donc sans doute la bêta 2 d'iOS 17.2. Alors, il a filmé, en fait, devant lui, il avait un plateau de sushi sur lequel le chef était en train de finir de mettre, je sais pas, le saumon, la sauce soja, je ne sais pas. Et cette vidéo a immédiatement été transférée dans un Vision Pro et immédiatement après l'avoir tourné, il a regardé la vidéo qu'il avait faite dans le masque. Et il dit que c'est absolument stupéfiant, le rendu. Et puis dans le masque, il y avait des vidéos préchargées par Apple qui évidemment étaient là pour lui permettre de réaliser ce test. Et donc on retrouvait un peu les images qu'on avait aperçues pendant la keynote, des enfants qui courent dans le jardin, etc. Le rendu apparemment est vraiment impressionnant, et le côté réaliste de la 3D a l'air complètement bluffant. Donc peut-être qu'on va être surpris, en fait, par l'adoption de cette fonction qui, moi, au départ, m'a semblé un peu la résurgence de la 3D dont personne ne veut. Mais si c'est tellement époustouflant que ça, J'imagine très bien les vidéos de chiens, de chats et compagnie. les vidéos familiales des enfants qu'on va vouloir garder et revoir dans leur en volume, quoi, quelque part, plus tard, des années plus tard peut-être aussi. Garder des souvenirs de, je sais pas, de ses parents, de ses grands-parents. Enfin, je sais pas. Je me dis qu'il y a peut-être là une mine pour Apple. Fabrice, qu'est-ce que t'en penses ?
Alors, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que le premier principe, c'est que c'est tourné avec, pour l'instant, soit avec des appareils professionnels, des caméras pro, etc., soit avec l'iPhone, dont on connaît déjà la qualité pour faire de la vidéo. Donc, déjà, ça, c'est vachement important. Et puis, alors, le bémol, c'est que ça signifie quand même qu'il faut un appareil spécial pour pouvoir les afficher, pour pouvoir en profiter.
Pas forcément, on va voir juste après.
Alors, spécial, même si c'est pas celui d'Apple, il faut donc quelque chose pour les voir. C'est là où j'ai un petit doute. C'est-à-dire que tu parlais du retour de la 3D. Moi, ça me fait presque... Alors, je vais encore... Pour les plus jeunes de nos auditeurs, il va falloir qu'ils aillent chercher sur Internet ce que ça veut dire. Mais c'est un peu comme du temps des diapos.
Oui.
Hein, quand on faisait des diapos, c'était des bien les diapos, c'était de bonne qualité, mais il fallait un projecteur de diapos pour pouvoir les voir. Et donc là... ce qui est ennuyeux avec ce genre de format, c'est que non seulement il faut un Vision Pro ou autre chose, et on va l'évoquer juste après, et même quand on a un appareil, c'est donc difficile à partager. C'est-à-dire que c'est un des souvenirs qu'on ne regarde que tout seul. Et donc, c'est là où j'ai un petit doute. Après, l'autre petit doute, mais qui, je pense, là, est dû surtout au fait que c'est nouveau. J'ai entendu des journalistes qui ont testé, notamment la Johanna Stern du Washington Post, qui disait ça fait très bizarre de regarder des souvenirs d'une famille qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire que c'est tellement réaliste qu'on a vraiment l'impression d'être au milieu d'eux et ça en est presque gênant. Parce que c'est pas mon papa, c'est pas ma maman, c'est pas mes enfants. Et donc ça fait un peu bizarre. Donc là, je pense que c'est un truc qu'il va falloir que juste on s'habitue, quoi. Quand on a commencé à faire des photos avant les smartphones, quand on faisait des photos, il fallait qu'on mette son œil dans le viseur et puis après on a fait des photos en regardant un écran. Les premiers qui faisaient ça, on les pointaient du doigt en disant qu'ils étaient bizarres, et maintenant on fait tout ça, donc on peut s'habituer à tout.
Alors il y a un point important, c'est une précision, mais les vidéos spatiales en 3D que tu vas pouvoir tourner avec un iPhone 15 Pro ou Pro Max ou le Vision Pro, elles seront aussi visionnables en 2D sur n'importe quel appareil. Ça ne les réserve pas à un visionnage 3D.
Alors c'est là où ça vaut le coup justement de commencer, pour ceux qui ont l'appareil qu'il faut, à prendre certaines séquences peut-être dans ce mode-là, sachant que pour l'instant, attention, hein, c'est limité à 1080p quand on fait de la vidéo spatiale, pardon. Parce que c'est des limitations techniques d'objectifs, parce que là ça utilise deux objectifs à la fois, le principal et puis le grand angle qui est recadré, donc du coup ça ne peut faire que 2080p, plus ça fait des fichiers assez gros, donc on peut pas forcément tout shooter comme ça, mais on peut commencer à se faire une vidéothèque avec ce genre de truc là, oui, parce qu'on peut imaginer, comme tu disais, finalement dans 10 ans on sera sûrement content d'en avoir de la vision de la vidéo 3D qu'on pourra regarder de toute façon dans ces lunettes qui vont ressembler à celles que je porte et qui permettront de voir ce genre de vidéo, quoi. Bien sûr.
Alors Gilles, il y a une bonne nouvelle aussi, ça enlève le côté un peu élitiste, c'est que certains ont déjà trouvé le moyen de visionner ces vidéos, on va dire en trois dimensions, sur d'autres appareils que le Vision Pro, et plus particulièrement, notamment sur le Quest 3, le nouveau casque de réalité mixte de Meta, qui est sorti le mois dernier et qui coûte 500 balles.
Oui, mais c'est moins immersif. Du coup, on peut partager. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais Et ce que disait Fabrice, c'est que on n'est pas dans la diapo, on est dans quelque chose qui va être généralisé. Et ce qui me fait très peur, c'est ce caractère immersif des vidéos quand elles seront bien faites et très bien faites, et ce sera de plus en plus le cas. Et on risque de se retrouver avec des gens qui disjonctent et qui passent de l'autre côté parce que ça sera une réalité qui ne sera pas la leur. Et on pourra de toute façon partager, on est tout seul derrière ses yeux et avec son cerveau à vivre une expérience qu'on partage avec les autres quand ils sont à côté ou avec lesquels on est en communication. Et c'est exactement de cette manière-là que ça va fonctionner avec plusieurs personnes qui sont connectées avec leur vision pro ou ses successeurs qui seront beaucoup plus abordables. Mais le fait que ça soit accessible avec des choses moins bonnes, à la limite, tant mieux, ça donnera aux premiers utilisateurs d'un écosystème autre l'envie d'aller voir sur quelque chose qui vaut vraiment le coup et qui est vraiment de bonne qualité.
Ouais. Sur l'aspect un peu isolement et visionnage en solitaire, je suis sûr qu'Apple va trouver un moyen de décloisonner le Vision Pro, parce qu'ils ont forcément ressenti ce retour-là depuis l'annonce à la WWDC. Mmh. À propos des solutions pour regarder ces vidéos, Fabrice, je ne sais pas si tu as vu ce drôle d'engin qui s'appelle la Zapbox. C'est une sorte de... Alors, c'est pas vraiment un masque, ni c'est pas vraiment un casque non plus, c'est plus une sorte d'armature qu'on se met sur la tête avec des lentilles devant les yeux. On va pouvoir brancher l'iPhone 15 Pro ou Pro Max dessus et on va pouvoir regarder ces vidéos en bénéficiant d'un sentiment d'immersion, en sachant que ces Zapbox, donc qui sont signées de la start-up Zatar avec 2T, vont être vendues $80. Donc là, on arrive vraiment sur des tarifs très 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 grand public.
Alors bon, faut pas. Alors soyons clairs, hein, ne confondons pas. C'est-à-dire que, c'est quelque chose qu'on se met devant les yeux. Ce sont deux écrans, un pour chaque œil, mais il y a rien d'autre en termes de technologie là-dedans. Comme tu viens de le dire, hein, ça se branche sur un iPhone, enfin un téléphone. Ça se branche sur quelque chose qui va diffuser, qui va stocker les images. Donc ça change tout. Cela dit, c'est une façon. C'est une réponse parce que c'est là où le Vision Pro, Apple l'a présenté comme étant un appareil qui peut remplacer un ordinateur, mais donc ça veut dire que c'est très cher. C'est très cher parce qu'il y a plein de choses dedans. Et que si on veut juste l'immersivité, le fait d'être immergé dans des vidéos ou des photos, parce qu'il y a des photos 3D aussi, il faut juste deux écrans devant chacun, un écran par œil, et puis on peut avoir ça. C'est finalement toute la question posée par le Vision Pro. Est-ce qu'il faut quelque chose qui soit indépendant et qui puisse marcher tout seul, ou de temps en temps on va pouvoir chausser ce genre de lunettes à écran pour profiter de quelque chose. Et donc j'insiste, comme avec un diffuseur, comme je disais tout à l'heure pour les diapos, un projecteur de diapos, mais qu'on peut s'accrocher sur le nez. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant aussi avec la sortie de cette sixième bêta, ce n'est que la sixième bêta, donc on imagine ce que vont nous réserver les prochaines, et puis déjà 6, je ne sais pas jusqu'à combien on va aller, mais en tout cas ça avance, c'est plutôt bon signe. Le patron de Telegram, la messagerie instantanée cryptée, a diffusé les premières images de la future application Telegram sous Vision OS. À ma connaissance, c'est la première appli dont on voit des images en dehors de l'interface proprement Apple.
Oui, on a vu des démos d'appli Apple, mais pas effectivement.
Pas tierce.
Ouais, exactement. Ouais. Alors, il y a d'autres développeurs qui commencent à s'y mettre. Il y a le développeur, son nom m'échappe là maintenant, mais il y a un type qui fait l'application Picalc depuis 32 ans et demi, qui a fait une calculatrice pour Mac et qui est toujours parmi les premiers, quelle que soit la plateforme d'Apple. Et donc Picalc va sortir sur Vision Pro, et aussi un truc qui un lanceur de dés pour ceux qui jouent à Donjons et Dragons. On a besoin de dés à 6 faces, à 8 faces, à jusqu'à 20 faces, et donc il a fait depuis 3-4 ans une application pour lancer des dés de manière virtuelle sur son iPhone ou son iPad, et maintenant qu'on pourra jeter des dés sur une table réelle, des dés virtuels qui pourront tomber de la table. Il a déjà raconté comment il allait faire, et donc on va pouvoir faire ça. Ce qui est très frappant sur l'exemple Telegram, on trouve des images, notamment sur le site 9to5Mac. C'est horrible. c'est rempli de licornes et de petites fées roses et de bulles de savon qui brillent. C'est affreux.
C'est vrai.
Bon, je ne suis pas la cible. D'accord.
Bon, on parlait de la 3D, des images immersives qui nous entourent, mais ça va pas concerner uniquement les vidéos familiales, hein, puisque les premiers films en version 3D sont arrivés, en tout cas sont prêts dans l'appli TV d'Apple pour la sortie du Vision Pro. On avait cité Jurassic World Dominion et Pacific Rim Uprising notamment, mais aussi Avatar 2, Avatar c'est quoi, le sens de l'eau, c'est ça,
la
voix de l'eau, c'est ça. Et puis il y en aura d'autres, hein, des films donc qui ont été repérés par Flat Panel HD. On en avait parlé il y a quelques jours dans la quotidienne, avant qu'elle ne passe la main à iWeek Express. Il y a une dernière info que je voulais partager avec vous, puisqu'on est sur le Vision Pro. C'est la deuxième génération qui est sur les rails. Information de MacRumors. Le nom de code de ce deuxième masque serait Alaska, et l'identifiant du produit en interne chez Apple serait le N109. Alors il y aurait moins de caméras, a priori 7 au lieu de 12. Apple ferait des changements notamment sur les haut-parleurs et sur les lanières. Alors c'est peut-être pas ça qui coûte le plus cher, mais en tout cas ça fait partie des premiers détails qui ont été remarqués, et pour le lancement on serait sur la fin 2025 au plus tôt, et donc dans 2 ans. Ça va laisser 1 an et demi au Vision Pro pour commencer à conquérir le monde.
On voit bien que Apple est sur le long terme quand même avec cette chose-là. Je pense que ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est une des grandes différences entre Apple et Google. C'est-à-dire que là, ils ont lancé un projet qui vont pas arrêter fin 2025 au cas où ça marche pas bien, etc. Le nombre de services lancés par Google qui ensuite ont été arrêtés au bout d'un an ou deux ou trois est long comme un jour sans pain. Chez Apple, il y en a un peu moins. Et je pense que c'est ça qu'on va voir. J'ai hâte de voir tout ça suivi de près par l'ami Marc Gurman, qui doit être à l'affût et qui va nous donner quelques infos sur le sujet, sur le long cours.
Alors, un message important pour nous, si vous appréciez notre travail, que ce soit autour d'iWeek, la semaine Apple, ou de notre nouveau podcast iWeek Express, eh bien on vous invite à rejoindre la communauté iWeek sur Patreon et à nous aider à continuer cette formidable aventure, n'est-ce pas les garçons ? La page iWeek sur patreon.com/iWeek vous attend. Alors un grand merci à chacune et chacun d'entre vous qui nous soutenez déjà. Bienvenue aux autres, on a besoin que vous soyez plus nombreux pour qu'on puisse développer iWeek et vous proposer toujours plus de contenu. Alors on passe à un nouveau rendez-vous, mais en fait c'est le retour d'un rendez-vous que vous avez connu à une époque, sous un autre nom. On va l'appeler le journal de la semaine. Ce sont les infos qu'on ne vous donne plus dans la quotidienne et qu'on a quand même envie de partager avec vous. Alors on va essayer de les enchaîner, hein, chacun d'entre vous pourra faire un petit commentaire sur chacune d'elles. On va essayer d'en passer le plus possible. Et on commence par le compte à rebours d'ici au Black Friday. Je vous rappelle que c'est prévu vendredi prochain, le 24 novembre, enfin vendredi prochain, dans 8 jours, hein, puisqu'on est le 16 aujourd'hui. Et Apple annonce la couleur, y compris en France. Alors pas de miracle, hein, pas de réduction, mais des cartes cadeaux pour l'achat de certains produits. Malheureusement, les produits les plus récents, la gamme iPhone 15, le nouvel iMac M3, les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 ne font pas partie des achats qui donnent droit à une carte cadeau. Alors, je me tourne vers vous, Fabrice et Gilles. Est-ce que c'est quand même intéressant ? Et est-ce qu'il y a de meilleures affaires que d'autres dans cette liste de produits qui sont compatibles avec ces cartes cadeaux qu'on reçoit en passant à la caisse ?
En fait, c'est proportionnel au prix d'achat de l'appareil qu'on achète. Ça correspond à une remise entre 5 et 10%. Je n'ai pas fait le calcul exact. On a une petite gratification. Ce n'est pas les prix cassés, martyrisés d'Amazon quand l'envie leur prend. Mais on a un petit geste commercial pour rappeler que Apple était l'un des précurseurs pour ce genre d'exercice en France, et ils n'ont pas tout à fait abandonné. À l'époque, c'était un des rares moyens d'avoir du matériel un peu plus avec un prix un tout petit peu plus accessible. Là, maintenant, on donne des cartes cadeaux, ce qui permet de rentrer dans l'écosystème un peu plus et d'acheter des services, mais il n'y a pas de miracle non plus. C'est proportionnel au prix d'achat de chaque appareil.
Oui, alors, oui et non, parce que quand même, quand je vois qu'on peut récupérer, alors si je ne me trompe pas, sur l'achat de AirPods, jusqu'à 75€.
Oui, pour les AirPods Max.
Ouais, mais 50 dans le cas des AirPods Pro 2 quand même.
Oui.
Alors, ils sont peut-être encore plus chers que chez Amazon, mais...
ils sont... En fait, pour rebondir sur ce qu'a dit Gilles, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fut un temps où, quand on achetait des produits Apple, le prix était pareil partout. Et donc, on pouvait toujours essayer de faire la chasse à la promo. Il n'y en avait pas. Ça a changé depuis plusieurs années maintenant, et notamment avec l'apparition des produits Apple certifiés chez Amazon. Je sais pas trop comment ça se passe, mais Ellie nous en a aussi parlé plusieurs fois, où c'est de la concurrence, je vais pas dire déloyale, mais qui est en tout cas très difficile pour les revendeurs officiels, parce que Amazon est capable, je ne sais trop comment, mais ils ont une force commerciale dingue, de faire des promos qui dans certains cas vont bien au-delà de ce que peut proposer Apple. Donc ça, c'est un signe des temps. C'est quand même pas pareil que justement ce qui se passait avant, comme l'a décrit si bien Gilles.
Autre news de la semaine, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ont acheté un iPhone de la gamme 14 depuis un peu plus d'un an. Vous le savez, vous avez droit à 2 ans de SOS d'urgence par satellite gratuit. Eh bien, Apple a déjà ajouté une 3e année. Ça veut dire qu'on irait jusqu'à la fin 2025.
La fin 2025.
Alors, mal.
C'est bien, prenons-le. Les soins d'urgence, on est perdu au milieu de nulle part. On peut quand même contacter quelqu'un et quelqu'un va venir nous chercher. Mais je trouve que ça veut dire aussi que on dirait qu'Apple n'a pas encore décidé de ce qu'il allait faire au niveau de tarification de ce service-là. Combien ça peut coûter véritablement, sachant qu'ils ont au moins déjà dépensé et investi 450 millions de dollars. C'était le chiffre qui avait été annoncé à l'époque. Et donc, ils ne savent pas, quoi. Donc bon, on va donner un an de rab parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire encore au bout des premiers 2 ans. Moi, c'est surtout ça. Alors c'est bien, mais finalement, ça ne renseigne pas tellement sur l'avenir de ce service, je trouve.
Mais est-ce que, Gilles, finalement, ça ne veut pas dire que c'est presque un service public ? Enfin, tu comprends ce que je veux dire ? Et qu'après l'avoir lancé gratuitement, c'est quasiment impossible sur des téléphones à ce prix-là, en plus de dire, à partir de maintenant, en plus, vous allez payer. Même si la fonction est géniale et qu'elle sauve des vies.
Je ne suis pas dans la tête des dirigeants d'Apple. Je sais qu'ils sont pétris d'imagination dès qu'il s'agit de trouver des revenus supplémentaires et des revenus récurrents, surtout. Donc, je crois que Fabrice a tout à fait raison. Ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont en faire, comment ils vont le facturer. S'ils vont le laisser gratuitement en accès en considérant que Ça fait partie du paquet qu'on achète, un petit peu comme les 5 ou 10 gigas de données qui sont disponibles dans iCloud, et que ça fait partie, ça fait tellement parler d'Apple que c'est payé par la publicité gratuite. Il faut voir sur le long terme, mais on a une petite idée avec l'iPhone 15. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que on va rester sur 2 ans? Au départ, Apple TV Plus s'était donné en accès libre pendant 1 an, puis 6 mois, puis 3 mois. Donc, ça risque de dépendre de la manière dont vont se vendre les produits eux-mêmes, et s'il faut trouver des revenus récurrents supplémentaires pour avoir des résultats cohérents et si possible en progression à présenter aux actionnaires. Maintenant, je suis peut-être un peu mauvaise langue.
Oui, enfin, je pense que Apple gagne assez avec les iPhones. Hein. Ils sont pas. Justement, il n'y a pas d'urgence de ce côté-là. Hein.
Oui, mais si tu regardes les commentaires qui sont faits, certains actionnaires sur des revues, des feuilles de chou comme Seeking Alpha commencent à dire « Oui, c'est de l'argent qui vient d'un astre mort. Passer sur autre chose, aller sur des supports qui ont un potentiel de progression beaucoup plus important. » Il faut absolument maintenir le prix de l'action à un niveau conséquent et même, si possible, en progression, ne serait-ce que pour pouvoir motiver la force de travail et les ingénieurs qui travaillent chez Apple et qui sont en partie rétribués en action en fonction des résultats, moyennant une certaine modération salariale.
Mes amis, j'ajoute une dernière minute que je viens de découvrir pendant que tu parlais, Gilles. Apple annonce le support de RCS dans Message à partir de la fin de l'année prochaine. Donc RCS, c'est le format de messagerie instantanée défendu par Google. Et la déclaration du porte-parole d'Apple est la suivante. À la fin de l'année prochaine, nous ajouterons le support du profil universel RCS, le standard publié par l'association GSM. Nous croyons que le RCS offrira une meilleure expérience d'interopérabilité quand nous le comparons au SMS ou au MMS. Et donc, il marchera côte à côte avec e-message, qui continuera à offrir la meilleure et l'expérience de messagerie la plus sûre pour les utilisateurs Apple. Voilà l'info qui tombe à l'instant, mes amis.
Réaction, ça s'appelle manger son chapeau. Ou aller à Canossa, si on veut faire un peu plus classe, mais toujours est-il qu'ils ont été obligés de baisser pavillon et d'en venir à ce que demandait la commission. En fait, c'est Thierry Breton qui a encore une fois son bras de fer, et Apple est obligé de passer sous les fourches codines. Ça va, vous avez assez l'image de la commission et de Google surtout pour pouvoir continuer à faire son petit business. La notion de gatekeeper qui, moi, me semble totalement erroné, fait pas mal de dégâts. J'ai peur. Ce que j'ai lu, c'est que Google avait quand même un œil sur ce qui rentrait, c'est-à-dire sur l'utilisation des téléphones, quand est-ce qu'ils appelaient, dans quelles conditions, etc. Donc, j'ai peur, un petit peu peur pour la collecte de ces données personnelles. C'est peut-être faux, c'est peut-être à raison, on verra. Et puis, est-ce que le format est suffisamment sécurisé? On sait que le problème principal du SMS, c'est que intrinsèquement, il avait des failles de sécurité qui avaient été utilisées pour un certain nombre de contournements de la sécurité, en particulier avec par Pegasus.
Gilles, on va pas trop se perdre. Là, vraiment, je voudrais qu'on réagisse sur l'info qui est donc le support de RCS dans message d'Apple à la fin de l'année 2024. Fabrice, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Ça m'inspire, alors je m'en veux de tirer le tapis sous les pieds de Gilles, mais ça m'inspire Steve Jobs, qui à un moment disait « Personne ne regardera de vidéo sur un tout petit écran qu'on met dans sa poche », et puis ils ont lancé l'iPod vidéo un an plus tard. Et donc ça fait un an, deux ans ou trois ans qu'ils disent que le RCS, qui est donc quand même un standard qui est un peu plus intéressant que le SMS et MMS pour faire passer des textos, ils refusent en disant que soit on fait SMS, soit on fait e-message. Donc avec Google qui a fait beaucoup de pression sur le sujet, c'est pas uniquement européen du coup, parce que c'est un standard qui va intéresser le monde entier pour dépasser enfin l'ère du SMS, ça me paraît intéressant. En revanche, là où c'est européen, c'est que effectivement il y a un besoin, une obligation d'interopérabilité des services de messagerie entre eux, et je pense que c'est un moyen pour Apple de dire bah, vous voyez, l'application message qu'on a sur nos iPhones est capable d'interopérer avec les autres via RCS, qui va normalement, maintenant qu'Apple est rentré dans le jeu, devenir un standard mondial. Et en revanche, si vous voulez des fonctions supplémentaires, eh bien, il faudra rester avec e-message, le service e-message d'Apple. Donc, toute la question est de savoir si, quand on enverra des messages RCS à des utilisateurs qui ne sont pas Apple, est-ce qu'on sera en bulle verte ou en bulle bleue, finalement. Ça n'est que ça. La vraie question, c'est est-ce qu'il y aura toujours une différenciation, histoire de montrer du doigt ceux qui ne sont pas chez Apple.
Probablement.
J'imagine.
Mais en tout cas, stratégiquement, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Tu penses que c'est la conséquence, comme le laissait entendre Gilles, justement, notamment de la pression en Europe ?
Oui, parce que c'est un moyen de faire de l'interopérabilité. On peut pas imaginer que, enfin, depuis le temps que Apple, en gros, refuse de rendre e-message compatible, enfin, disponible sur les appareils Android, on peut pas imaginer qu'ils ouvrent ce service-là à autre chose. C'est un facteur différenciant pour Apple, enfin, énormément aux États-Unis. Hein, j'ai entendu il y a pas très longtemps, il y a 70% des ados aux États-Unis qui ont un iPhone. Donc, c'est vraiment un facteur différenciateur très, très, très important. En revanche, l'interopérabilité améliorée ou telle qu'elle est demandée par l'Europe entre les différentes plateformes de messagerie, je pense que ça va passer. Maintenant que Apple est dans le jeu, ça va passer par le RCS et on devrait. Ce serait pas étonnant que du coup deviennent compatibles Telegram et WhatsApp et les autres, et que ce soit le fil commun, en fait. Parce que une des choses qui empêchait ça pour le SMS, c'est que le SMS, ça passe forcément par l'opérateur téléphonique, alors que toutes les autres, que ce soit WhatsApp, Telegram, Signal et les autres, ça passe par Internet. Et les messages RCS, peuvent passer par Internet aussi. On n'est plus obligé de passer par l'opérateur téléphonique. Donc, ça me paraît très bien parti pour que ce soit le point commun de toutes les applications de messagerie.
Autre info, alors celle-là aussi, on s'attendait à ce qu'elle n'arrive jamais, l'arrivée d'une app Windows, donc Windows de Microsoft, hein, on est bien d'accord, sur Mac, sur iPhone et sur iPad, alors bientôt, hein, parce qu'elle est au stade de la bêta, sur Mac ce sera à partir de Monterey, sur iPhone et iPad à partir d'iOS 16 et d'iPadOS 16. J'ai envie de te demander, Fabrice, mais pourquoi et pourquoi faire ?
On se rappelle qu'un des intérêts des Mac à processeur Intel, c'était de pouvoir faire tourner Windows dessus. Il y a des professionnels qui ont besoin de certaines applications qui ne tournent que sous Windows. Avec l'arrivée des Mac à processeur M, c'était plus difficile. C'est devenu plus facile maintenant avec des logiciels de... le mot m'échappe maintenant, mais genre parallèle, etc.
Virtualisation.
Fusion, de virtualisation, merci beaucoup. De faire tourner quand même Windows sur des Mac à processeur M. Et là, mais en revanche, faire tourner ça sur des iPhones ou des iPads, pas question. En revanche, ça fait des années que Microsoft travaille à rendre Windows, en fait, un système accessible à distance. Donc, c'est cette application qu'on évoque là, c'est pour faire du Windows 365, c'est-à-dire on a un abonnement et on fait tourner des applications à distance et l'iPhone et l'iPad et le Mac, dans ces cas-là, deviennent des terminaux, comme on parlait des network computers il y a 25 ans, c'est le grand retour des terminaux, parce qu'il y a toujours des applications qui tournent sous Windows et c'est un moyen pour Microsoft de conserver à Windows un intérêt pour tous les professionnels en fait.
Gilles, tu as l'impression que Microsoft s'invite dans nos devices là avec cette app?
Oui, après avoir longtemps traîné des pieds, puisque Windows 11 pour ARM a mis du temps à arriver et être disponible. Ils ont besoin de continuer à être la référence, Fabrice l'a bien dit, le vit tous les jours, sur un certain nombre d'applications métiers, et donc il faut un support, et on retrouve ce dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, ce balancier entre le côté client et le côté serveur. Là, l'iPhone et le Mac deviennent un simple client sur lequel on va pouvoir accéder à Windows, enfin faire tourner Windows, qui va être une porte d'entrée sur les applications donc Office, qui est très très important, d'autant que Microsoft investit là-dedans pour faire tourner, pour injecter de l'intelligence artificielle. Donc, il faut absolument pouvoir rentabiliser ça sur un maximum de clients, au sens de clients-serveurs, quoi.
Allez, 30 secondes de réaction par news, comme ça on réussit à toutes les donner. Amazon qui abandonne Android sur ses appareils au profit de son propre OS, Fabrice.
Oui, alors c'est pour les tablettes Fire, par exemple, c'est la marque des tablettes d'Amazon. Ils ont dit que ça s'appelle Vega, c'est basé sur Linux, qui en fait, rappelons-le quand même, Android c'est aussi basé sur Linux. Bon, ils veulent se soustraire de Google. On ne sait pas trop ce que ça va vouloir dire en termes de Play Store, justement pour installer des applications, sachant qu'Amazon a son propre magasin d'applications. Bon, on verra ce que ça donne. Ça concerne quand même une portion de marché extrêmement réduite.
Gilles, Orange sonne la fin de la récré et se pose enfin en concurrent de Starlink en France avec le lancement de sa propre offre de connexion à Internet par satellite.
Oui, là aussi c'est le l'autorité politique qui a fait les gros yeux et qui a dit « Bon, vous laissez pas ce gros gâteau-là et ce service public ». Qui n'en est plus un, mais au moins cette obligation de résultats aux simples Américains, et vous nous proposez une offre cohérente qui soit compétitive. Et donc Orange a fait ils ont bien pris soin de souligner que c'était un seul satellite de fabrication européenne, et qu'on était, sinon franco-français, au moins européen et français, avec donc une offre qui est assez compétitive par rapport à ce que peut proposer Starlink.
Ouais, alors on est à 49,99€ par mois, 200 mégas en download et 15 mégas, je crois, en upload. La parabole, enfin le kit dispo à 299€ à l'achat ou 8€ par mois en location. Mais c'est pas une antenne comme celle de Starlink, Fabrice. C'est un peu la vieille parabole de papa, quoi.
Bah oui, parce que ça, oui, ça repose sur une offre d'un opérateur qui s'appelle Nordnet, qui existe depuis longtemps, qui est maintenant une filiale d'Orange. Donc, ouais, je sais pas trop. Je suis très perplexe avec ces offres par satellite parce que, en fait, une fois que le déploiement de la fibre, par exemple, avance, le satellite revient à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire donner un accès Internet, même rapide, à des zones qui sont vraiment mal desservies et qui sont finalement en petit nombre. Et pour faire ça, on envoie des milliers de satellites dans le ciel et ça me dérange beaucoup.
Autre news, les soucis de surchauffe de la gamme iPhone 15.
Chauffe, Marcel, chauffe.
Vous vous souvenez, Apple serait en train de repenser assez profondément le design interne de l'iPhone 16, donc qui sortira dans un peu moins d'un an si tout va bien. Gilles, pour un meilleur refroidissement passif. Ce qui veut dire que, bon, il y avait quand même une petite marge d'amélioration sur la gamme 15.
Oui, il y en a toujours avec une puce qui est beaucoup plus puissante, donc qui va chauffer davantage et sur un espace toujours contraint. Donc si on va rajouter en plus de l'exposition à une source externe de chaleur, on va se retrouver avec un appareil qui chauffe et qui se met en pause pour sauvegarder son intégrité. Et là, on va mettre des sondes en graphène, d'après ce que j'ai lu.
Ouais.
Donc, une recherche d'efficacité, d'autant que la coque mixte entre titanium et aluminium n'était pas apparemment aussi efficace que ça en matière de dissipation thermique.
Gilles, je te garde parce que le sujet suivant, il est pour toi. Apple Music Classical, donc, qui était sorti sur iPhone en mars, qui est arrivé sur Android en mai, qu'on attendait sur Mac et qui arrive en fait sur iPad, mais toujours pas sur Mac. Et il est arrivé il y a quelques heures.
Il court le furet. Alors, je sais que Fabrice était en mode Grumpy Cat dès qu'il a découvert la nouvelle ce matin, qu'il le voulait sur Mac. On est un peu dans les injonctions paradoxales vis-à-vis d'Apple, là où on veut les choses le plus vite possible, et puis en même temps, quand ça marche pas, ça râle. Donc là, en l'occurrence, Apple a l'air d'avoir passé un pas supplémentaire en adoptant, en portant sur iPadOS, ce qui était déjà disponible sur iOS. Le mot d'ordre en ce moment est à la correction des bugs et au zéro défaut. Il est vraisemblable que c'était pas tout à fait sec, selon l'expression neumannienne. Donc, ils ont préféré délayer, pas délayer, mais retarder un peu la sortie sur le Mac. Elle arrivera quand elle sera prête. Et moi aussi, ça me fait râler puisque j'utilise davantage sur le Mac que sur iOS. Déjà, s'il pouvait corriger le problème de disponibilité du son quand on va écouter la musique sur une source externe avec AirPlay, ça serait déjà pas mal.
Ouais. On termine par deux news côté Apple TV+. D'abord, le problème avec Jon Stewart. Vous connaissez peut-être cette série. Ben, on va dire que rarement une série aura aussi bien porté son nom parce que le Congrès américain, Fabrice, demande des comptes à Apple après l'annulation de la saison 3, dans laquelle il devait notamment être question de la Chine. Et c'est presque en train de devenir une affaire d'État aux États-Unis.
Alors, ça demande un petit peu de contexte, parce que Jon Stewart n'est pas forcément quelqu'un qui est très connu en France. En revanche, aux États-Unis, c'est une grande star qui a pendant longtemps tenu les rênes de l'émission de Daily Show. Donc, c'est parmi toute une grappe d'émissions satiriques d'actualité. Et il a tenu ça pendant bien 10-15 ans. Donc c'est vraiment quelqu'un de très connu aux États-Unis, assez incisif, qui a des opinions politiques et qui les dit. Il a arrêté l'émission. Il est devenu un grand défenseur des pompiers qui ont notamment péri pendant les événements du 11 septembre. Et donc c'est quelqu'un vraiment de très suivi. Et puis le voilà qui arrive sur Apple TV+, avec une émission, donc le problème avec Jon Stewart, et qui est une émission de commentaires assez acerbe, souvent politique, etc. etc. Et puis voilà que donc la troisième saison n'y a pas de troisième saison, il n'y a pas de reconduction pour une troisième saison. Alors ça pose toute la question. C'est toujours pareil, en fait, il y a un vrai problème potentiel quand on est à la fois fournisseur d'accès et fournisseur de services et fournisseur de contenu. C'est comme quand Orange veut faire du contenu avec un magazine ou des news au quotidien, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Et en plus, quand on est grand comme Apple, avec une belle influence, et en reposant beaucoup, comme on sait, on s'en fait l'écho ici souvent, donc pour produire ces appareils, c'est beaucoup en Chine, et donc les relations entre Apple et la Chine sont vraiment importantes pour Apple pour pouvoir continuer à fournir tous ces appareils. Est-ce que Apple a fait pression sur Jon Stewart pour ne pas parler des relations avec la Chine? Est-ce que Apple peut faire autrement dans sa position? Ou est-ce que aussi, il faut noter ça, cette émission n'avait pas un grand succès? Donc quand on est producteur d'une émission, il y a un moment où on ne reconduit pas les saisons parce qu'il n'y a pas forcément suffisamment de gens qui regardent, de spectateurs. Donc du coup, tout ça est mélangé et sur fond de relations étatiques avec la Chine. Je pense que ça va être passionnant en fait à suivre.
Apparemment, c'était une émission très suivie, la plus suivie d'Apple TV+. Mais pour rebondir sur ce que disait, les nuances qu'apportait Fabrice, sauf erreur de ma part, l'émission d'Oprah Winfrey a été arrêtée également.
Alors qui c'est Oprah Winfrey? Oprah Winfrey, donc.
Non, Oprah, machin.
Winfrey.
Winfrey,
qui était quelqu'un d'extrêmement
connu. C'est comme si tu disais Michel Blucher, quoi. Tu vois, c'est pareil.
J'ai fait une Jacques Delors, vous me pardonnerez.
C'est ça.
C'est quelqu'un d'extrêmement connu aux États-Unis et dont l'émission a été suivie également. Ouais.
Mais je crois pas du tout. Ça m'étonne beaucoup. D'abord, je pense pas que le problème avec Jon Stewart soit la plus regardée. Je crois vraiment pas.
Non.
Ensuite, Oprah Winfrey, j'ai pas le souvenir.
Il y avait pas de truc qui me
elle
semble
a
avec
collaboré avec Apple, mais
oui. Elle avait une émission d'Apple TV, notamment, etc. Mais oui, elle a fait quelques émissions de d'interviews, mais il y avait jamais eu
Obama,
quelque chose de signé pour dire qu'elle allait en faire tous les mois pendant etc. etc.
Pas
donc on n'était pas sur une saisonnalité comme ça. Et franchement, Gilles, Jon Stewart, moi j'ai regardé un peu, mais ça ne peut pas être un succès mondial parce que c'est vraiment sur la politique américaine essentiellement avec un personnage comme lui et ça n'avait pas forcément un grand succès. En revanche, est-ce que ça reste intéressant de savoir si son émission a été aussi arrêtée parce que Apple se dit oh là là, ça va faire du mal à nos relations avec la Chine. D'ailleurs, et c'est tout le droit d'Apple qui produit une émission et qui ensuite ne veut plus donner des sous pour produire l'émission. Le problème, c'est pas tellement ce contrat-là, c'est le fait, est-ce que quelqu'un comme Apple, est-ce que c'est une bonne idée pour Apple de produire de l'actualité?
Dassault le fait bien.
Je te renvoie à la question. Est-ce que c'est bien raisonnable?
Je ne crois pas, je te réponds.
Allez, on termine par cette toute dernière info. Les premières photos de Juliette Binoche en Coco Chanel pour Apple TV+ sont sorties. Ce sera dans la série The New Look, dans laquelle Ben Mendelsohn incarnera, lui, Christian Dior. Les trois premiers épisodes sont annoncés pour la Saint-Valentin, autrement dit, le 14 février prochain. Et je n'oublie pas le génial John Malkovich au générique. On passe au coup de cœur, au carton de la semaine. Je me tourne vers vous, les garçons. Fabrice, de toute évidence, tu as quelque chose à nous dire.
Mon coup de cœur de 2023, c'est l'Apple Watch série 7.
Et tu es très en retard.
Ça y est, je vis enfin, c'est mon expression favorite du moment, je vis enfin dans le futur d'il y a 5 ans. C'est-à-dire que j'ai changé mon Apple série 3 pour une Apple série 7 que j'ai trouvé d'occasion. Et en plus, je l'ai prise cellulaire. J'attendais ça depuis longtemps, mais je voulais quelque chose à prix raisonnable, c'est ce que j'ai trouvé. Je suis très content, en fait, ça fait exactement ce que je souhaitais, c'est-à-dire que ça réduit l'usage de mon smartphone, de mon iPhone, parce qu'il m'arrive donc, puisqu'elle est cellulaire, de sortir de chez moi sans mon téléphone. On évoquera ça dans le bonus justement, mais des fois on a son téléphone dans la poche et on n'en a pas besoin, on le sort quand même. Et puis surtout, du coup, c'est devenu mon lecteur de podcast principal. Voilà, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus pratique pour moi, en tout cas, d'avoir mon Overcast sur mon poignet et de ne plus avoir à transporter, même quand je suis à la maison, mon iPhone ici ou là, parce que je change de pièce, ça joue sur mon Apple Watch. Voilà. Et donc, pour moi, c'est une découverte. J'attendais ça depuis longtemps. Et voilà, Apple Watch série 7 en 2023, ça marche très bien. Merci beaucoup.
Formidable, bravo. Gilles, as-tu un coup de cœur ou un carton ?
Ni carton, ni coup de cœur, je me réserve peut-être pour la semaine prochaine.
Bon, en ce qui me concerne, moi j'ai un carton rouge à distribuer à Apple et à l'assistance Apple. Alors, en fait j'en ai deux même. Le premier, c'est sur le fond. Je vous explique très brièvement. En fait, il y a 2 ans, j'ai d'abord pris un abonnement iCloud Plus avec 2 Tera de stockage. Et puis 2 mois plus tard, Apple a lancé Apple One. J'ai pris Apple One, dans laquelle il y a aussi 2 Tera de stockage. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai 2 Apple ID, en fait, et j'ai pris chacun des 2 services sur un Apple ID différent. Donc, les Tera de stockage ne sont pas additionnés. Donc, ça fait 2 ans que je paye pour 4 Tera et j'utilise que 2 Tera, en fait. Donc, comme je suis arrivé à saturer les 2 Tera, j'ai passé un coup de fil ce matin à l'assistance Apple, qui est assez compliqué à trouver, machin. Donc, ils m'ont rappelé. J'ai passé une demi-heure au téléphone avec un gars qui m'a dit « je vous rappelle ». Il a pris mon numéro. Il m'a effectivement rappelé quelques minutes plus tard. Ça a coupé et il ne m'a pas rappelé. C'est-à-dire que j'ai perdu une demi-heure et je n'ai pas avancé d'un iota. Et le gars, je n'ai aucun moyen de le retrouver, donc il faut que je recommence tout à zéro. Donc, premier carton rouge. Deuxième carton rouge, il était en train de me dire qu'en gros, comme c'est pas sur le même compte, ils pourront rien faire. Moi, je disais, vu que j'ai pu utiliser que 2 Tera sur les 4, remboursez-moi l'option iCloud Plus à partir du moment où j'ai pris Apple One. Bon, ils ne sont pas partis pour le faire. Et s'ils ne le font pas, je vais être très, très, très fâché. Voilà. Donc, deuxième carton rouge. Merci Apple. Je vous rappelle dès demain matin.
On va avoir besoin d'une suite. Hein.
Voilà, c'était l'épisode 162 d'iWeek, la semaine Apple. Si vous aimez ce rendez-vous, abonnez-vous aussi à notre nouveau podcast iWeek Express. Disponible sur toutes les plateformes, c'est gratuit comme la semaine Apple. Merci les amis, Fabrice Neumann, à très vite pour la suite.
À très vite pour la suite, absolument, merci mon capitaine.
Et merci Gilles Dounès.
Oh ben, avec plaisir, son capitaine, et j'espère à la semaine prochaine également.
Et moi aussi j'espère. Suivez-nous sur les réseaux, à iWeek News sur X, ex Twitter. Et aussi sur Mastodon, at iWeekNews, at mastodon.world. Toujours le hashtag iWeekLSA. La bonne adresse aussi à ne pas oublier et à utiliser tout de suite, là, tant qu'on en parle, c'est patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté, profiter de ses avantages et surtout nous soutenir. On vous dit à très vite pour la suite, que ce soit à tout moment avec iWeek Express, ou la semaine prochaine pour l'épisode 163 d'iWeek, la semaine Apple. Salut à tous, bye bye.
Bye bye.